diocèse de Paris, c'est, pour situer les choses, c'est la fin de la crise qu'il y a eu dans l'Église avec les prêtres ouvriers. Que fait-il de 54 à 69 ? Il est aumônier au centre Richelieu. Qu'est-ce que c'est que le centre Richelieu ? C'était le centre chrétien pour les étudiants à la Sorbonne. Alors aujourd'hui, on n'imagine pas ce que c'était que la Sorbonne à l'époque, parce que maintenant il y a des universités partout, mais à l'époque, il n'y avait que la Sorbonne qui regroupait toutes les universités. Et il n'y avait pas tellement de jeunes qui faisaient des études supérieures. J'ai vu le chiffre, je crois qu'il y avait 100 000 pour toute la France, et pas les millions d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'était donc ce centre ? Il avait été fondé par Monseigneur Charles, et il y avait donc deux aumôniers qui accueillaient les jeunes qui voulaient, et ça marchait, mais alors vraiment, mais d'une façon extraordinaire, on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Et donc, c'est là qu'il est entré, je dirais, dans le christianisme, mais pas du tout dans le milieu parisien, bourgeois ou commerçant ou autre, c'était vraiment par les étudiants, parce qu'il les a formés et il s'est formé en même temps. Et donc, on en reparlera, je pense, tout à l'heure, parce que c'est une des choses sur lesquelles je voudrais insister, on ne peut pas tout raconter, mais que là, vraiment, il a inauguré des changements extraordinaires en liturgie avec les jeunes, alors que ce n'était pas du tout l'époque. Et il a comme ça anticipé, précédé Vatican II et les réformes qui ont été décidées après. Alors c'est toujours comme ça, il est toujours en avance sur les autres, dans un bon métro si je peux dire. Et alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il y avait donc deux aumôniers, et ensuite la deuxième partie, là, de 59 à 69, il est devenu le directeur de ce centre. Donc il a vraiment pu faire des tas de choses qu'il a reprises plus tard quand il est devenu curé de paroisse. Mais aujourd'hui, ça nous semble à la fois génial, formidable, et en même temps, je me demande, moi, si on n'est pas un petit peu revenu en arrière là-dessus, parce qu'il me semble qu'il était tellement dans l'invention, l'innovation permanente, la création, il fallait que ce soit beau, festif, que les jeunes soient à l'aise. Eh bien, malheureusement, moi, je n'ai pas tellement vu que ça a été beaucoup gardé par la suite. Alors, c'est la même époque que, de 1962 à 65, le Concile Vatican II. Bon, donc, il y a pas mal de réformes qui vont se faire, en tout cas qui ont été décidées, ce qui ne veut pas toujours dire qu'elles aient été appliquées. Hein. Et à mon avis, on en est encore un peu là pour certaines choses. Bon alors, qu'est-ce qui est formidable quand même, c'est Nostra Aetate. Ça, bon, ça c'est formidable et on ne reviendra pas là-dessus. Mais pour ce qui est de la façon de dire la messe, évidemment il y a eu la nouveauté qu'il avait déjà installée lui-même, de dire la messe face au peuple, et pas tourner vers l'autel en tournant le dos aux gens. Il avait reconfiguré déjà au centre Richelieu les lieux pour qu'on soit autour de l'autel et pas à l'autre bout comme ça se faisait dans les églises. Et puis il avait introduit des chants, de la musique, il aimait tout ce qui était festif, et je crois que les étudiants ont vraiment apprécié cette période avant de s'apercevoir que ce n'était pas partout comme ça. En 69 jusqu'à 79, c'est avant le début du film, il est curé à la paroisse Sainte-Jeanne de Chantal à Paris. Alors Sainte-Jeanne de Chantal, donc il y a passé 10 ans, et il a continué à faire tout ce qui lui plaisait, en s'entourant de gens qui avaient envie de créer avec lui. Alors il y a eu un sculpteur, Jean Touret, qui l'a gardé dans ses proches jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est celui qui a donc fait l'autel magnifique de Notre-Dame de Paris, autel malheureusement endommagé aujourd'hui, et que apparemment les gens n'ont pas envie de remettre. Moi je me dis, s'il y a quelque chose à faire là-bas, franchement, c'est toute la vie du cardinal, en plein Paris, en plein Notre-Dame, moi j'aimerais bien qu'on le remette. Mais bon, je n'ai pas tellement de pouvoir de décision là-dessus. Alors, pendant ce temps, de 78 à 2005, c'est le pontificat de Jean-Paul II. Et je crois que sans Jean-Paul II et l'amitié profonde, et plus que de l'amitié, il y a eu vraiment une vision commune pour l'Église, mais une vision eschatologique, on peut dire. Hein. Ils se sont vraiment rejoints là-dessus. Et je pense que sans Jean-Paul II, il n'y aurait jamais eu l'ascension extraordinaire de Lustiger. Hein. Peut-être qu'il est un bon petit curé parisien sympa et aimé des jeunes. D'ailleurs, quand je dis aimé des jeunes, je voudrais mettre un petit bémol. Il ne faut pas imaginer qu'il était trop proche ou un peu dans la séduction, comme on a pu voir quelquefois avec des aumôniers. Non, non, il était très bien, mais toujours à sa place, toujours à la juste distance. Vraiment, c'était formidable, quoi, parce que justement, il a été très, très apprécié et écouté et suivi. Donc voilà, pontificat de Jean-Paul II. Eh bien, ça n'a pas été bien long. Jean-Paul II, nommé en 78, que fait-il en novembre 79? Il appelle, donc c'est le début du film, il appelle Lustiger pour être évêque à Orléans. Alors là, c'est vraiment la surprise totale, parce que comme il le dit au début du film, et certainement il a eu une réaction de ce genre, il a dit, mais c'était juste pas possible, là. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Je pensais qu'avec mes origines juives, jamais je ne pourrais être dans la hiérarchie, puisque c'est une hiérarchie de l'Église catholique. Et alors il est nommé évêque à Orléans, c'est l'endroit où il avait été réfugié et où il avait demandé le baptême. D'autre part, Orléans, c'était un endroit... Le précédent évêque, c'était Mgr Riobé, qui était une personnalité importante dans l'Église de France, parce qu'il était très pour le progrès. Je ne sais pas ce qu'on dit aujourd'hui, progressiste, je ne sais pas si ça veut dire exactement ça. En tout cas, il était très connu, très fin, très, très important, et voilà que la place lui est donnée par Jean-Paul II. Alors Jean-Paul II ne l'a jamais rencontré, hein. Comment est-ce qu'il l'a nommé? Il l'a nommé sur dossier, en se disant, sans doute, un homme comme ça, qui prend tous les risques, qui va là où je voudrais aller, mais ce n'est pas encore fait, lui il le fait déjà, il a misé sur lui, quoi. Et en fait, ils se sont connus seulement après. Et en 1980, donc 78, Jean-Paul II devient pape, 79, Lustiger devient évêque, et en 80, le pape vient pour la première fois en visite en France. Et là, il a rencontré les jeunes. Et qui est-ce qui organise des rencontres entre le pape et les jeunes? Eh bien, c'est Lustiger, évidemment. Et l'année suivante, ça continue, archevêque de Paris. Bon, alors là, c'est quand même une bombe, je pense, dans le monde de l'époque et le monde chrétien. Et lui, il démarre tout de suite à faire ses créations, il fonde une commission d'art sacré. Et cette commission d'art sacré est très très efficace et disons que justement c'est là qu'il a manifesté son désir de rendre les choses belles. Voilà. Les célébrations doivent être belles, les églises doivent être belles. Il est toujours dans une recherche d'esthétique. Et il continue aussi par la fondation de Radio Notre-Dame. Alors ça également, c'est très intéressant, parce qu'à cette époque-là, on ne peut pas dire que dans l'Église catholique, on se précipitait pour parler aux médias. Tout le monde se tâtait en disant « Oh là là, on n'a pas de formation, personne n'osait répondre à la radio, à des interviews, ni à des journaux. » Mais lui, ça lui plaît, il n'a pas peur du tout, et il s'aperçoit quand même que ça serait pas mal de profiter des occasions, une occasion qu'il a eue, de fonder une radio chrétienne, Radio Notre-Dame. C'est tout la même année. Et la même année encore, il lance la nouvelle évangélisation. Qu'est-ce que c'est que ça? Il se dit que l'Église hiérarchique, ça a ses limites, enfin c'est ses idées, hein, Moi, je vous dis ce qu'il a dit et ce que j'ai vu. On n'est pas obligé de penser comme lui. Moi, je vous le dis, vous croyez ce que vous voulez. Qu'est-ce que c'était la nouvelle évangélisation pour lui, puisque ça ne va pas tellement bien dans le diocèse de Paris, il y avait plein de crises. Et il se dit, c'est pas que la hiérarchie, il faut changer quelque chose à la base. Et l'idéal pour l'Église, ça serait des petites communautés. Des petites communautés, comme on commence maintenant à notre époque à imaginer que c'est possible. Alors, la mauvaise période, c'est quand même en même temps que toutes ces belles choses qu'il fait, 80-81, il a des affrontements terribles dans la société parce que les gens trouvent que vraiment, il n'est pas à sa place. C'est un juif et c'est honteux. Et il a des affrontements, j'allais dire, des deux côtés. Parce que sa famille l'a mal accepté, ses frères, les juifs orthodoxes, très mal accepté aussi. Et du côté chrétien, le clergé parisien n'a pas été tendre avec lui. Et puis il y a plein de gens de la société civile qui l'ont affronté tout le temps pour qu'ils disent qui il était. Et il a été obligé de revendiquer sa judéité. Voilà, deux fois. Et bon, je ne vous dis pas les détails parce qu'on est quand même un peu pressé d'aller à l'essentiel. Et en 83, il est nommé cardinal. Alors, cardinal, il faut se rendre compte de ce que c'est. Dans le film, on le voit. Quand le pape Jean-Paul II le nomme cardinal, il le nomme cardinal en même temps que lui, il y avait Henri de Lubac, qui a eu bien des problèmes aussi pour être accepté dans sa propre église. Et puis, on a un autre, mais ça ne me revient pas. Et en tout cas, nommé cardinal, ça veut dire qu'il est papabilé, c'est-à-dire qu'on pourrait l'élire pape. Et en tout cas, il peut élire quelqu'un pape. Alors, c'est complètement fou, quoi. Et il fallait vraiment que ce soit Jean-Paul II pour faire un coup pareil qui est unique dans l'histoire. Et c'est la même année où il va à Auschwitz. Et que ça a été horrible, horrible pour lui. Horrible épreuve. 84, il y a manifestation scolaire à Paris. Et oui, c'était manifesté pour que l'école libre continue à exister. Et libre, ça ne voulait pas dire forcément chrétienne, catholique, mais avoir une certaine liberté, quelle que soit sa pensée et sa religion. En 85, l'année d'après, le pape, donc toujours Jean-Paul II, va à la synagogue de Rome. Alors, un pape qui rentre dans une synagogue, encore une grande première. Et en 89, en 89, là, il fait un coup qui n'a pas plu à tout le monde. Il a voulu fonder un séminaire à Paris, un séminaire à sa façon à lui, pour rénover la formation du clergé. Parce qu'il trouvait que vraiment, la formation du clergé à cette époque était assez médiocre. Et il avait toujours envie que les choses bougent. Ça n'a pas plu, parce que je crois qu'il a dû à ce moment-là faire fermer d'autres séminaires et que, bon, vous imaginez un petit peu les réactions dans le clergé et à Paris. Alors, on est toujours dans un milieu très parisien à l'époque, parce qu'il n'y a pas tellement, il n'y a pas de communication comme aujourd'hui, mais il y a des répercussions partout, il faut quand même imaginer. En 86, il publie un livre, Le choix de Dieu, qui est un livre là, très, très gros. Hélène pourra vous en prêter un, ou moi, ou d'autres. C'est un gros pavé. C'est intéressant, c'est un peu spécial, parce que c'est le choix de Dieu. D'abord, quel est le sens? Ça veut dire, je n'ai pas choisi Dieu, c'est Dieu qui m'a choisi. Et il me demande un truc impossible, c'est d'être à la fois juif et chrétien. Et il est interviewé par deux journalistes, je n'ai pas marqué le nom ici, mais je peux le trouver tout à l'heure, deux journalistes qui vont le titiller sur plein de sujets. Mais alors, ce n'est pas vrai, c'est les cathos qui vous ont forcé à être chrétien quand vous aviez 14 ans, etc. Il dit toujours non, moi j'ai... Non, personne ne m'a forcé, ni dans un sens, ni dans l'autre. ben voilà, j'ai eu, ça m'est tombé dessus. Ça m'est tombé dessus, ça arrivait comme ça. Le Seigneur m'a appelé, et puis j'avais 14 ans, et voilà, je l'ai fait. Mais il n'y a pas du tout d'ambition, pas du tout. En 93, un événement aussi dans le monde, le Vatican reconnaît l'État d'Israël. En 94, Lustiger entre à l'Académie française. Alors, il faut dire aussi que là, je parle d'un ou deux livres importants à mes yeux, mais il en a écrit une quinzaine. Il parlait et il écrivait extrêmement bien. Enfin bon, voilà, donc il collectionne les titres, les succès. Bon. En 1994, la même année, il apprend un projet des monuments historiques. On va restaurer le collège des Bernardins. Alors je ne raconterai pas toute l'histoire, si vous voulez vous instruire, vous lirez par vous-même. Et il faut comprendre que les monuments historiques qui voulaient restaurer ce collège des Bernardins, c'était vraiment pas n'importe quoi, c'était très important parce que ça avait été au XIIIe siècle l'endroit où se formaient les chrétiens. Donc c'était le lieu mythique de la formation religieuse. Voilà. Alors, il apprend que les monuments historiques veulent faire ça. Très bien, mais qui en aura les moyens? Alors, je vais continuer un peu quand même ce qui se passe par ailleurs. Le 30 septembre 1997, c'est la repentance de l'Église de France à Drancy. La repentance, c'est quand même aussi un événement capital et dont il est évidemment le moteur, hein, avec d'autres, mais il le voulait. 97, la même année, il y a les Journées mondiales de la jeunesse à Paris. Alors là, Ecclesiane, il y avait toujours un succès fou. Ça a été un succès fou, ces Journées mondiale de la jeunesse à Paris. En décembre 99, alors là, il a de nouveau un grand projet, le projet de fonder cette fois-ci la chaîne d'émission KTO, que nous connaissons maintenant, et sur laquelle on peut aujourd'hui se renseigner sur lui et sur mille autres choses. Ça a été vraiment une hostilité massive du clergé français. Parce qu'ils ont dit, ça commence à bien faire, ils révolutionnent tout, ils nous embêtent, on n'a pas les moyens, et on voudrait bien que chacun fasse ce qu'il veut dans son coin. Pourquoi dépenser tant d'argent pour un truc monumental? On n'en a pas besoin. Et en fait, c'était une levée de bouclier, si on peut dire, parce que chacun voulait régler les choses dans son petit coin, sa petite paroisse, etc., ou sa province. Mais alors, aller engloutir des sommes pareilles, alors, le clergé a été hostile, mais la société parisienne, en grande partie, et tout le monde disait, mais il est fou, il va ruiner le diocèse, qu'est-ce qu'on a dit encore? Le cardinal s'offre des danseuses, n'est-ce pas, à dépenser tant d'argent pour les choses qui lui font plaisir. Mais c'est affreux tout ce qu'on a pu lire, entendre sur lui à cette époque-là. Mais ça ne l'a jamais beaucoup trop ému, mais quand même, bon, ça devait être dur à encaisser. Donc, pendant ce projet, le projet des Bernardins avance aussi un petit peu, mais s'il veut essayer d'acheter les Bernardins pour que ce soit fait pour l'Église, il est obligé, ça le conduit à réorganiser entièrement, alors là c'est vrai que ça commence à devenir un peu dingue, entièrement les finances du diocèse de Paris, entièrement. Parce qu'il faut bien dire aussi que ce n'était pas vraiment à la hauteur. C'est-à-dire que les finances du diocèse de Paris, disons qu'il n'y avait pas du tout de plan qui coordonne les choses, qu'on faisait appel, on avait toujours fait appel à des braves gens retraités, bien sympathiques, mais qui ne connaissaient pas forcément du tout le monde des finances. Et lui, il dit, mais ça ne va pas ça, il nous faut des professionnels. Et il engage des gens professionnels et il va chercher dans les hautes sphères parisiennes, chez les grands patrons des grandes entreprises. Et puis, ma foi, il y réussit, ce qui est le plus fort. Il y réussit parce qu'il a peur de rien, parce qu'il est intéressant, il attire quand même les gens. Et puis, il va manger chez les uns, chez les autres, pour dire « j'ai besoin d'argent, aidez-moi », etc. Et puis, ça marche, hein, ça marche toujours. Et même avec, je crois qu'il est même allé manger avec Madame Bettencourt ou des gens comme ça, parce que c'était pas ses idées, ça faisait rien. Bon, il réussissait. Et puis finalement, en 2001, il a réussi à racheter les Bernardins. Mais alors à quel prix? Pas tellement d'argent, mais c'est qu'il a dû d'abord refonder en mettant des gens professionnels partout, à tous les postes, et en relocalisant tous les services diocésains. C'est-à-dire, ça a été, moi je dis, c'est un peu les chaises musicales. Il prenait un truc, il le mettait ailleurs, et on prenait l'autre, on réparait. Alors, les gens, vraiment, là, ont commencé à se poser des questions sur lui, enfin, continuer à se poser des questions. Et malheureusement pour lui, c'est seulement après sa mort que les Bernardins ont été ouverts au public, c'était en 2008. Donc, il ne l'a pas vu. Et je... Il me fait penser à Moïse, qui n'est pas rentré dans la terre promise. Et bien, c'était pas loin, mais il n'y est pas. Voilà. Et pendant ce temps, je reviens un petit peu en arrière à cause des Bernardins. Jean-Paul II est allé à Jérusalem. Bon, il est allé à Jérusalem, et il y a une photo du pape devant le mur. Cette photo que j'ai ici sur la couverture du livre suivant, ça a fait un scandale épouvantable. Mais qu'est-ce que le pape va faire là-bas? Et les accusations que finalement les chrétiens veulent récupérer les juifs. Non, mais c'est, vous savez, entre Auschwitz, le Carmel d'Auschwitz, et puis Jean-Paul II à Jérusalem, je crois que là, il a eu vraiment un maximum d'opposition. Mais en 2001, il publie quand même, enfin, son livre La Promesse, avec la fameuse photo en couverture. Et ce texte était très ancien, 2001. Il est publié, il datait de 79. Pourquoi n'a-t-il pas publié ce texte plus tôt? Moi, je le trouve génial, hein, c'est un livre, tout le monde doit lire ça, c'est génial. Mais pourquoi ce livre n'avait pas été publié? C'était parce que c'était des notes de religieuses auxquelles il avait fait une retraite spirituelle en 79, et elles avaient pris des notes, puis on lui avait dit, est-ce qu'on peut les garder entre nous? Oui, oui, bien sûr, dans un milieu confidentiel, il n'y a pas de souci. Et il avait dit tout ce qu'il pensait, quoi, ce qu'il croyait, ce qu'il voulait faire, et tout. Et surtout son idée, la promesse de Dieu, faite aux Juifs, pour les Juifs, par les Juifs, c'est la source de tout ce qui peut leur arriver de plus horrible, mais c'est aussi la gloire des Juifs, et que d'autre part, cette promesse, elle est, d'après Isaïe, d'après toute la Bible d'ailleurs, ouverte un jour, à tous les peuples, à tous les peuples. Alors, c'est sûr que ça pouvait pas plaire, hein. C'est sûr que ça pouvait pas plaire. Mais vraiment, il avait mis là tout son cœur, et bien il l'a publié très tard. J'allais dire, son destin était largement joué. Et alors en 2005, il a fait un discours de Vienne, je ne l'ai pas lu, si vous me trouvez un jour le texte, dans lequel il reprend une formulation, il se place côté chrétien, en parlant des Juifs, nos frères aînés. Aujourd'hui, ça peut nous sembler peut-être facile, mais à l'époque, non. Or, il a fallu qu'il aille prouver, une fois de plus, sa bonne foi, parce que je crois qu'on lui a montré que c'était, ça avait été dit par Thomas d'Aquin et que ça venait de Saint-Paul. Alors, moi, je ne sais pas, je ne vérifie pas ce genre de truc, mais bon, c'est-à-dire qu'il a quand même été un peu provocateur jusqu'à la fin. Et en 2007, donc, il meurt à Paris. Vous savez qu'il avait, il était très malade, il avait un cancer. Il avait préparé ses funérailles avec beaucoup de soin, comme tout ce qu'il faisait. Il voulait avoir le Kaddish récité pour ses funérailles. Bon, alors ça non plus, ça ne s'était jamais fait. Alors, vous me corrigerez si je me trompe. Je crois que normalement, le Kaddish est récité par un minyan, par 10 hommes. Et ben, il n'a pas eu ça. Il y a un jeune homme qui l'a récité. On a arrêté le convoi, on a déposé le cercueil, un jeune homme a dit le Kaddish, et on est entré pour la messe de ses funérailles. Et il a fait mettre dans Notre-Dame, sur un pilier, une plaque Alors, j'ai marqué quelque part, je ne sais pas si je vais trouver maintenant, une plaque dans laquelle il dit son nom, Aaron, Jean-Marie, Lustiger, que c'est saint, patron, enfin c'est saint, non, il ne dit pas c'est saint, je crois. Il dit ses protecteurs, c'est Aaron, le grand prêtre, c'est Marie, pleine de grâce, et Jean, l'apôtre, voilà. Et qu'en ayant demandé le baptême, il est demeuré juif, comme tous ceux-là, tous ceux qu'on appelle quelquefois des premiers chrétiens, et qui sont des juifs au moins jusqu'au IVe siècle, qui prient avec les prières juives, qui vont à la synagogue, etc. Donc c'est bien marqué, et puis il a fait sa signature en dessous, si vous voulez, Jean-Marie Lustiger, archevêque de Paris. Voilà. Donc on peut l'avoir, hein. Ça ne sera pas enlevé. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Je ne sais pas si on peut essayer quelque chose. Non, je vais jusqu'au bout. Alors, on ne peut pas tout développer. J'ai essayé de vous faire un peu se dérouler un peu rapide, mais vous en aurez tout à l'heure toutes les dates, la liste avec toutes les dates, si vous voulez continuer à faire des recherches. Et ça situe quand même une période qui est assez difficile à cerner, je trouve, parce que, comme on disait tout à l'heure, c'était l'après-guerre, mais une après-guerre qui a mis quand même longtemps avant que les gens réalisent un petit peu ce qui avait pu se passer. Et ça a été en même temps une période courte, magnifique à Paris, parce qu'il y avait énormément de gens. Il y avait Lustiger, mais il y a eu plein de gens, de personnalités formidables qui se sont rencontrés, disons, dans Paris, enfin, qu'on pouvait rencontrer dans Paris à la même époque pendant une dizaine d'années. Alors, j'ai noté quelque part, mais maintenant j'ai peut-être un peu de mal à retrouver mes notes, mais je pense que, bon, mais il y avait Lustiger, mais il y avait, des profs sensationnels à la Sorbonne, il y avait Raymond Aron, il y avait Paul Ricoeur. Dans d'autres secteurs, il y avait Sartre qui faisait des conférences, ainsi que Simone de Beauvoir. On allait écouter plein de gens comme ça, de toutes sortes. Et quand il a été curé dans cette paroisse de Saint-Jean de Chantal, il faisait venir plein de monde pour parler, pour instruire les gens. Et par exemple, pendant des années, il a fait venir François Varillon. Et on pouvait écouter comme ça François Varillon appelé dans une petite église de quasi-banlieue parisienne. C'était juste à la frontière entre Paris et la banlieue. Ou bien il faisait venir aussi quelqu'un qui l'a beaucoup soutenu, c'était un des deux frères Père Kowalski, je ne sais plus lequel c'était, parce qu'il y en a un qui nous faisait des cours sur un évangile, j'ai oublié lequel, et puis sur l'Apocalypse. Alors tout le monde allait, tous les jeunes, on allait écouter ce qu'il disait sur l'Apocalypse, parce qu'on n'y comprenait rien. Et voilà, il avait le talent, dans tous les domaines, d'aller chercher des gens compétents et intelligents qui l'ont soutenu. Voilà. Donc aussi bien pour les finances, pour les constructions, pour la réforme des finances du diocèse, pour les arts, pour la musique. Il avait un compositeur qui lui faisait de la musique pour les célébrations. Enfin, tout était comme ça, quoi. Il n'y avait pas de limite. Il n'y avait pas de limite à son travail. Alors, à ses innovations. Alors, je vais prendre une ou deux petites fiches. Mais on n'aura sûrement pas le temps de tout dire. 9h, ça va encore. Sur sa personnalité. Alors, c'est un petit peu à travers un livre que j'ai apporté aussi. Comment est-ce qu'on a trouvé ce livre? C'était sur KTO, je crois, oui, une émission sur KTO, dans laquelle deux grands historiens, je vous donnerai aussi les références tout à l'heure, ont eu l'idée, 15 ans après la mort de Lustiger, de convoquer des personnalités importantes qu'il avait connues, mais dans tous les domaines. Soit qu'ils étaient acteurs dans la société de l'époque, soit qu'ils aient été des fidèles, ils sont des témoins, et chacun a eu un thème. Et le livre est très gros. Moi, je n'ai pas étudié tous les thèmes parce qu'on a trop. Mais à partir de tout ça, j'ai regroupé des choses pour faire des petites fiches, par exemple sur sa personnalité. Alors, qui était donc ce petit curé juif devenu le cardinal Bulldozer? Alors, vous comprenez pourquoi on l'a appelé Bulldozer, parce que ça allait toujours à fond. Il a toujours revendiqué et assuré sa double identité juive et chrétienne. Voilà. C'est pas du tout un intellectuel, mais c'est un homme d'action. Par contre, quand il avait besoin, il savait très bien trouver des intellectuels pour venir à son secours. Et puis, il avait quand même beaucoup, s'était beaucoup formé. Au début, j'ai retenu qu'il avait, cité, bon, je ne vais peut-être pas trouver tout de suite, si ça y est, il a cité les gens qui l'avaient beaucoup marqué. Le jésuite Jean-Daniel Lou. Rencontré entre 1905 et 1974, qui était aumônier gésiste à la Sorbonne, et puis qui faisait des cours à l'Institut catholique. Bon, tout le monde connaît, je pense, Daniel Lou, qui a très bien écrit sur la judéité. Un oratorien que moi je ne connais pas du tout, mais ça donne envie de le connaître, l'oratorien Louis Bouillet, 1913-2004, qui donnait des cours à l'ICP, c'est-à-dire à l'Institut catholique de Paris. Et que dit de lui Lustiger ? Il mettait l'accent sur la continuité historique du judaïsme et du christianisme, comme sur la nouveauté spirituelle de l'Évangile. Et un troisième, Henri de Lubac, excusez du peu, « Si vous voulez absolument m'étiqueter, je me suis reconnu dans les écrits du père de Lubac. » Alors là, c'est un petit peu plus intello, je pense, mais bon, voilà, c'est ce qui, les gens qui l'ont aidé à se former. Ah ben voilà ce qui a marqué sur sa plaque à Notre-Dame. « Je suis né juif. J'ai reçu le nom de mon grand-père paternel, Aaron. Devenir chrétien, devenu chrétien par la foi et le baptême, je suis demeuré juif, comme le demeuraient les apôtres. J'ai pour patron Aaron le grand prêtre, Saint Jean l'apôtre, Sainte Marie pleine de grâce, et c'est signé Aaron, Jean-Marie, cardinal Lustiger, archevêque de Paris. Alors je reviens à sa personnalité. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'est un pur parisien, un homme de la ville et un homme moderne, qui ne ressemblait pas du tout au curé de l'époque. Il n'avait pas du tout d'ambition personnelle, quoique beaucoup l'aient cru. Mais non, il était fonceur pour être fidèle à la vocation qu'il disait avoir reçue du Seigneur. Voilà. Et il a assumé tous ses paradoxes, à la fois juif, chrétien, pour la laïcité et pour la christianité, pour la tradition, pour le modernisme. En fait, il n'a pas eu peur des affrontements. Et il a dû avoir beaucoup d'inconfort dans sa vie, beaucoup de souffrance, venant des incompréhensions de sa famille, de ses proches, de certains de ses frères juifs, pas tous, mais autant que du monde catholique, ou peut-être pas autant, je ne sais pas ce qu'on peut dire, on ne va pas faire de comparaison, mais le clergé qui était réticent à toute évolution, et il a suscité par contre l'enthousiasme des jeunes étudiants, parce qu'il présentait de l'Église un visage neuf. Et il a suscité des fidélités formidables et des rejets virulents. Par contre, il y a quand même eu des revirements. Parce qu'au début, il n'avait pas du tout été en bon terme avec le grand rabbin de l'époque. Et puis, même dans le film aussi, on voit des choses même assez violentes. Hein, où on lui dit, maintenant, il faut choisir, vous ne pouvez pas être juif et chrétien, hein, choisissez votre camp. Et il l'a bien choisi quand même avec l'histoire du Carmel d'Auschwitz, où il a contré le pape Jean-Paul II. Mais ce n'est pas la peine de raconter toute l'histoire, vous la savez mieux que moi, et puis on peut la trouver partout. Parce qu'il disait que c'était scandaleux, justement, qu'on puisse dire des chrétiens qui récupéraient quelque chose d'Auschwitz, en disant Auschwitz, ben, pour tout le monde, c'est le martyr des juifs. Bien sûr, il y a eu plein d'autres gens qui sont morts là-bas, même des Polonais. Et ils disaient au pape, c'est pas parce que t'es Polonais, excuse-moi, mais là, c'est pas possible, on ne peut pas, tu ne peux pas laisser faire ça. Et c'est Jean-Paul II qui a quand même cédé, non? Mais il lui avait dit, tu es mon conseiller, je te prends comme conseiller. Bon, ben, il a eu ses conseils. Et donc, il y a eu des revirements, notamment chez le grand rabbin, de l'époque.
Kaplan.
Et il a eu beaucoup de reconnaissance aussi de la part de personnes qui étaient connues pour leur anticléricalisme. Par exemple, l'éloge, au moment de sa mort, l'éloge funèbre, a été fait par Henri Tinck, qui était, paraît-il, tout à fait anticlérical, qui a trouvé que c'était un homme formidable. Alors, qu'est-ce qu'on a dit de lui ? Il est le flamboyant, il avait un caractère volcanique, il était impatient d'initier des mutations chez les catholiques, et il voulait voir se réunir les deux branches de l'unique alliance de Dieu avec son peuple. Alors ça, bon, évidemment, ça peut heurter des deux côtés, et il savait très bien qu'il heurtait, mais c'était ça. Donc il était toujours en avant sur l'Église, c'était un visionnaire, il voyait aussi l'unité de l'Europe, et donc l'unité dans le royaume de Dieu, l'eschatologie, voilà. Et en attendant, il avait les pieds sur terre, voilà. Un talent pour trouver des gens compétents dans tous les milieux pour réaliser ses projets, très coûteux, très critiqués, et le défendre aussi quand il était accusé de faire de graves erreurs de théologie. Il est allé chercher un spécialiste pour montrer que ses idées venaient de Thomas d'Aquin, etc., et très à l'aise dans les médias et la communication, ce qui n'était vraiment pas le cas chez les cathos de l'époque. Voilà, qu'est-ce que je peux dire encore ? Son œuvre. Alors son œuvre, c'est un monde, et on est juste au commencement de la découverte de tout ce qu'il a fait, lancé, voulu, et voilà, c'est un précurseur. Alors, on commence par le matériel, bâtisseur d'église, 7 églises construites, 3 rénovées. En 84, il fonde l'école cathédrale. Qu'est-ce que c'était ? Il voulait une formation pour tous, prêtres, religieux et laïcs. Ça n'a jamais existé avant lui, ça. Et quelle idée, quelle bonne idée, même prêtres et laïcs. Oui, mais prêtres et religieux. On voit bien que quelquefois, encore aujourd'hui, on a quelques problèmes. Parce qu'il n'y a pas toujours la communication, en tout cas il n'y a pas de subordination du tout entre le clergé séculier et puis tous ceux qui gouvernent tous les mouvements, les congrégations. Voilà. Alors il avait voulu aussi sa radio, Radio Notre-Dame. Il disait, il y a plein de gens qui ne viennent jamais à la messe ni nulle part. Comment voulez-vous les toucher ? La radio. Après ça, donc, Cathéo, où il a dépensé énormément d'argent, mais heureusement, plein de gens sont venus boucher les trous à mesure qu'il s'en faisait. Les Bernardins, alors ça, c'est une idée superbe. Parce que les Bernardins, son idée, c'était ce lieu de formation religieuse, il faut qu'il soit un lieu aussi de dialogue avec la société civile. Et en fait, c'est ça, les Bernardins. Et tout le monde peut y aller. Les séminaires, bon, donc très controversés parce qu'il en a fait fermer. Et puis on lui a dit, mais pourquoi est-ce qu'il voulait absolument que les séminaristes aient votre modèle idéal à vous ? Mais on peut comprendre que ce qu'il voulait surtout, c'était le service. Il était pour que l'Église soit au service et jamais un organe de pouvoir. Eh bien, c'est très intéressant aussi, hein. Et les finances du diocèse de Paris, eh bien, heureusement qu'il est arrivé, parce que c'est pas lui qui les aurait ruinées, ça se ruinait tout seul. Et il a donc voulu engager des gens compétents et il voulait professionnaliser le travail de l'Église. Voilà. On ne fait pas de l'amateurisme, on ne va pas à la débrouille, il faut être compétent. Et donc, il avait commencé, pour les finances, à embaucher, comme j'ai dit tout à l'heure, je crois, des cadres supérieurs. Et il a même réussi à rétablir le patrimoine, enfin, défendre et développer le patrimoine immobilier parisien, alors que tout allait à volo Et je n'ai pas pris les chiffres parce que ce n'était pas vraiment mon sujet pour ce soir, mais c'est absolument fabuleux parce qu'on louait des locaux magnifiques pour 4 sous et le clergé n'avait pas d'argent. Il a changé tout ça. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore dans son œuvre? Alors, une quinzaine de livres, sans compter tous les articles, les contributions partout. Qu'est-ce que je peux dire encore? Il disait que le christianisme n'en était encore qu'à ses débuts. Et c'est très important aussi, ça, je trouve, quand même. Parce qu'il voyait tellement l'avenir, comme je disais tout à l'heure, qu'il voyait déjà juifs, chrétiens, même peuple, ensemble dans le royaume de Dieu. Mais il vivait ça, ce n'était pas qu'une idée dans la tête. Il vivait avec ces visions-là. En tout cas, il a changé les regards des juifs et des chrétiens, le regard réciproque. Alors, son idée maîtresse aussi, une de ses idées maîtresses, il faut absolument revenir à la Bible. Et, par exemple, j'ai relevé une phrase, « Faire de la Bible le langage maternel des chrétiens ». Alors, c'est vrai que chez nous, on lisait la Bible tout petit, mais normalement, on sait très bien que c'était à l'index. Mais heureusement, il y avait dans la famille des gens qui disaient ben non, la Bible, c'est la base, il faut que tout le monde lise la Bible et la pratique. Et il a même dit qu'il n'y avait pas d'avenir pour l'Église si elle ne retrouvait pas ses racines juives. Alors ça, moi, ça m'a frappé aussi. Pas d'avenir pour l'Église si elle ne retrouve pas ses racines juives. Et comme maintenant, justement, on s'interroge beaucoup, n'est-ce pas, sur l'avenir de l'Église, lui, il a commencé à le faire, j'ai un livre là-dessus, où il s'interrogeait sur l'avenir de l'Église, de cette façon originale, comme chaque année le pape donne une retraite annuelle, il avait fait venir un évêque, un cardinal, enfin un représentant des 5 continents pour dire, et chez vous, voilà, chez nous, comment voit-on l'avenir de l'Église? Alors c'est très intéressant de voir par exemple ce que disaient les Africains à cette époque-là et puis ce qu'il en est aujourd'hui. Et il disait aussi que c'est important pour les chrétiens de remettre chez eux cette capacité du judaïsme à ne pas tomber dans l'idolâtrie. Et c'est vrai que toute la Bible dénonce l'idolâtrie. Mais alors il dit par exemple, une religion faite par des hommes, pour des hommes, c'est humain, c'est pas divin. Et il ne faut pas tomber dans l'idolâtrie, il y a un Dieu, un seul. Là aussi, il y a de quoi méditer. Donc là, ça aussi très important, moi je crois. La formation pour les laïcs, les clercs, tout le monde en même temps, les religieux, une formation pour tous. Sa réforme de la liturgie, avant Vatican II même, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'allégresse, la disposition, comme on fait souvent maintenant dans les églises, c'est qu'il a fait à Notre-Dame et qu'on voit dans beaucoup d'églises, avec l'autel au milieu et les gens en cercle autour, et pas comme en classe, avec quelque chose qui se passe là-bas et que personne ne voit, à l'autre bout. Et puis donc... Il nous fait comprendre que la pensée, ah oui, ça c'est important aussi, la pensée contemporaine ne se fabriquait plus au sein du christianisme. Et qu'il y avait un décalage grandissant entre ce que propose l'Église et les attentes de la société moderne. Ben, ça aussi c'est à méditer, ce décalage. Et c'est vrai que ça a été vraiment un tournant dans les années 60. Et ça on l'a très très fort senti, je trouve, à Paris, c'est que ben voilà, il y avait ce milieu privilégié des étudiants de la Sorbonne qui allaient au centre Richelieu, mais en même temps 68 n'était pas loin et il y avait déjà quelque chose qui se préparait. Et autant vous dire tout de suite qu'évidemment il n'a pas du tout apprécié 68, hein. Et son influence a complètement dépassé le monde catholique. Et cette recherche qu'il voulait entre les penseurs de la société civile et les gens qui ont une religion, les Bernardins, c'est quand même une idée géniale et d'avant-garde aussi. Et enfin, allons-y, parce qu'il n'y avait pas de main morte, l'Église a beaucoup trop souffert d'être de l'ordre du pouvoir. C'est une catastrophe si on ne distingue pas la religion du pouvoir. On ne devrait pas être dans l'ordre du pouvoir dans l'Église. On est serviteur des autres et de Dieu. Et le pape, serviteur des serviteurs. On ne peut pas être plus clair. Voilà, donc, pour finir, on peut dire un grand personnage du dernier tiers du XXe siècle, un homme qui pensait en permanence la transformation de tous les systèmes de valeurs et qui peut rejoindre sur beaucoup de points, à mon avis, un protestant qui est Jacques Ellul, que lisait la génération de mes parents, ça ne nous rajeunit pas, mais qui a écrit quand même un livre qui est aussi une petite bombe en disant, comment ça s'appelle, la perversion du christianisme. La perversion du christianisme, vous vous rendez compte? Et bien ce livre, moi je vous dis, il faut le lire aussi, parce que ce n'est pas une perversion comme on peut imaginer n'importe quoi aujourd'hui. Non, non, ça veut dire justement que pour survivre, l'Église a, au fil du temps, pris des habitudes civiles, de hiérarchie, de pouvoir, et des princes, et des princes-évêques, et ceci, et cela, alors qu'on était bien loin du judaïsme et de la petite équipe de Jésus avec des gens simples. Et c'est vrai qu'il y a eu quelque chose, un courant qui nous a amené à pas mal de dérives. Bon, c'est encore une fois, hein, on ne juge pas, mais il faut s'interroger. Voilà, et bien mes chers amis, j'espère que vous avez continué à vous intéresser à ce personnage passionnant, et puis que vous verrez le film, si on ne le voit pas maintenant, on va encore essayer une fois, et puis Robert va vous distribuer, si tu veux bien, le récapitulatif de toutes les dates qu'on a vues, et moi je vous donnerai aussi quelques... Un peu de... Un peu de ressources.